de votre présence.
Eh bien, merci. Je vais à Nazareth, j'ai quitté Paris. J'ai quitté Paris et j'ai quitté Notre-Dame. Vous dire quand même deux mots sur Notre-Dame, qui est une cathédrale blessée, comme dit notre archevêque, mais debout. Je vais vous parler de la Vierge Marie, vous savez, c'est elle qui m'accompagne tous les jours. La première personne que j'ai vue en entrant dans la cathédrale, le soir de l'incendie, à minuit, quand grâce aux pompiers, la façade n'est pas tombée, j'ai vu la Vierge. Voilà.
Enfin, j'ai pas eu d'apparition, vous n'allez pas croire que j'ai eu des apparitions.
Non, j'avais les pieds sur terre. Je pleurais beaucoup, mais j'avais les pieds sur terre. Et j'ai vu la Vierge sur son pilier, la Vierge du pilier. Pourtant, tout était écroulé au-dessus d'elle, puisque la grande voûte est tombée. Et donc, restait la croix glorieuse au fond de la cathédrale et la Vierge du pilier, qui est une Vierge, j'allais dire, miraculée, même si elle va devenir miraculeuse. Mais elle est d'abord miraculée. On se demande pourquoi elle n'a pas été écrasée par la voûte, puisque les pierres sont tombées. Elle est tout autour, elle était non pas recouverte de pierres, mais à ses pieds, il y avait toutes les pierres de la voûte, et elle n'a pas été touchée. J'avais déjà une dévotion mariale, parce que j'aime beaucoup la Vierge Marie, mais c'est vrai que depuis l'incendie, elle m'accompagne, je lui parle. Vous savez, je suis un peu comme Don Camillo, moi. Je ne sais pas comment vous priez, mais moi je parle. Et surtout quand je suis tout seul, donc ça ne gêne pas. Et donc je lui parle, parfois je râle un peu, vous râlez pas, mais moi je râle. Parce que j'essaye de mettre Notre-Dame, la Vierge du Pilier, sur le parvis, et pour l'instant il y a des résistances. Alors de temps en temps je lui dis, écoute, hein, moi je fais tout ce que je peux, si maintenant tu veux sortir, eh bien tu dois faire un miracle, car c'est de l'ordre du miracle. Mais elle me répond, elle me dit, sois patient Patrick, sois patient. Alors bon, j'essaye d'être patient, mais j'espère que vous irez en pèlerinage, peut-être dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, que sais-je, mais vous irez en pèlerinage devant la cathédrale, il y aura la reproduction, naturellement, je ne vais pas mettre la Vierge du Pilier, qui est du XIVe siècle, mais il y a une belle reproduction qui sera, j'en suis sûr, sur le parvis, pour permettre à tous les catholiques, tous les chrétiens qui viennent en pèlerinage, voir la cathédrale, eh bien, ils verront la façade de la cathédrale et Marie qui sera là. Et vous pourrez chanter des Ave Maria. Voilà, donc c'est un petit peu, c'était mon introduction. Je dis encore 2 mots, la cathédrale sera vraiment, j'allais dire, sécurisée dans 4 à 6 mois. Quand on fêtera le premier, si je puis dire, le premier anniversaire de l'incendie, je pense que la cathédrale sera sauvée à 100%. Pour l'instant, elle n'est pas sauvée à 100% tant que le grand échafaudage qui se trouve sur la cathédrale, eh bien, n'est pas enlevé. La grande difficulté, c'est que cet échafaudage est soudé et donc ça ne s'enlève pas comme cela. Il est soudé et donc il doit être découpé. Il ne faut pas qu'il tombe, car s'il tombe, ce sont des 300 tonnes qui tombent sur la cathédrale. Il y aura une très grande grue qui arrive progressivement, surtout la nuit, parce que ça bloque tout Paris, qui va être installée sur le parvis, près de la cathédrale, pour être au-dessus et pouvoir prendre tout ce qu'on aura découpé pour pouvoir enlever tout cet échafaudage. En avril, on pourra dire normalement que tout sera sécurisé. Ensuite arrivera la deuxième phase. La deuxième phase, c'est l'évaluation des dégâts. Car aujourd'hui, nous ne savons pas quels sont les dégâts. Quand je veux dire quels sont les dégâts, on sait qu'il n'y a plus de charpente, oui. On sait qu'il n'y a plus de toit, on sait qu'il n'y a plus de flèches. Mais il y a toutes les pierres. Et quand vous êtes à 800 degrés, et avec l'eau des pompiers, naturellement, pour éteindre l'incendie, les pierres ont joué. Certaines sont cassées. Il y en a d'autres qu'il va falloir remplacer. Alors, vous savez, remplacer une pierre dans une cathédrale, c'est un travail difficile, hein, parce qu'il faut la redécouper, la remettre, enlever l'autre. C'est un travail. Il y aura, voilà, de nombreux tailleurs de pierres qui vont venir, mais, voyez, nous sommes bien incapables aujourd'hui de dire combien il faudra changer de pierre, si c'est 50, 500, 5000 ou 50 000. Donc, là, c'est la seconde phase qui sera, la deuxième, qui sera l'évaluation des dégâts. Ça prendra jusqu'en janvier 2021. Et en janvier 2021, on construit la, on reconstruit ou on restaure, comme vous voulez, la cathédrale. Et donc, à ce moment-là, il faudra compter environ 500 personnes qui travailleront sur le chantier. Et puisque on va essayer de, j'allais dire, de répondre aux souhaits du président de la République. Et l'archevêque l'attend avec impatience, parce qu'il a envie de rentrer de nouveau dans sa cathédrale. Il faut 2 ans pour refaire les voûtes, il y a 3 voûtes à refaire, et refaire la charpente comme le toit. S'il y a 500 personnes sur le chantier, ça va beaucoup plus vite, naturellement. On a eu la grâce d'avoir de nombreux dons, les promesses se réalisent progressivement, on a, il paraît, 900 millions, mais ça sera peut-être plus, on verra. En tout cas, déjà avec 900 millions, on peut avoir des artisans. Il est évident que, pour vous rendre... La sécurisation coûte actuellement 100 millions. Vous voyez que ce sont des sommes astronomiques. Voilà. Mais il fallait absolument consolider l'ensemble de l'édifice avant d'enlever l'échafaudage, qui va provoquer des vibrations. Il faut pas que... C'est un château de cartes, vous savez. La cathédrale ne tient pas puisqu'elle tient par la charpente et le toit. Voilà, c'est un ensemble bien construit. Là, aujourd'hui, les murs, les collatéraux, ils sont dans le vide. Et donc, comme ils sont dans le vide, alors, ils ont construit une charpente au-dessus, une fausse charpente, un plancher, pour bien tenir et faire du poids. Parce que c'est pour ça que la charpente va être faite, je pense, à l'identique. Et nous savons la construire, car nous avons tous les... On l'a en 3D, on a tous les dessins, tous les schémas... C'est facile à refaire. Il faut trouver les chaînes, si on l'a fait en chaîne. Mais en France, on a des chaînes. On me dit, mais oui, mais ils sont récents. Non, il y en a qui ne sont pas récents, et donc on trouvera de vieux chaînes. Voilà. Donc ne vous affolez pas, je pense que vous aurez une belle charpente, et ensuite un toit. Ce que je demande simplement, c'est qu'il n'y ait pas trop de plomb, pour que je ne sois pas... Enfin, moi, je ne serai plus ennuyé. J'ose espérer qu'il n'y aura pas un incendie après, mais pour mon successeur dans 3 siècles, qu'il ne soit pas ennuyé avec l'affaire du plomb. Voilà. Et puis, donc, en 2024, eh bien, si tout se passe bien, l'archevêque rentrera dans sa cathédrale avec le recteur, si je suis encore en vie, et on jouera les grandes orgues. C'est pas sûr qu'il y ait les grandes orgues, parce que le grand orgue, on va le démonter complètement pour le nettoyer. Il n'est pas abîmé, mais il faut quand même tout le nettoyer, donc ça va être long. Et le petit orgue, il est mort. Donc, il va falloir le ressusciter en achetant un autre orgue. Voilà. Bon, sinon, il va falloir refaire tout le mobilier de la cathédrale, puisque comme ça s'est écroulé juste sur l'autel, donc l'autel est complètement écrabouillé, l'embon a disparu, voilà, tout a disparu, il y a un petit peu un trou sur, donc il faut refaire tout le chœur. Mais sinon, comme vous l'avez su, il n'y a rien d'abîmé au niveau des œuvres, Dieu merci. Aucun tableau n'a été abîmé, Le trésor est là, la couronne d'épines, elle est toujours là, et j'allais dire, d'abord le Saint-Sacrement, mais il a été cherché tout de suite pendant l'incendie, avec la couronne d'épines, car c'était les deux choses que j'avais dites aux pompiers, il faut aller chercher le Saint-Sacrement et la couronne d'épines. Voilà, on me demandait quel était le code du coffre, j'étais bien incapable de donner le code, mais avec les pompiers ça va vite, ils ont un marteau, ils ont cassé le truc, mais ils n'ont pas cassé, Dieu merci, la couronne. Et donc on a pu retrouver la couronne en état, et tout ça est au Louvre, sous haute protection. La couronne ne sort pas, vous savez que normalement, la couronne elle a été confiée par Napoléon au Napoléon Ier, au chapitre de la cathédrale. Ce sont les chanoines qui sont gardiens de la couronne, et il y a les chevaliers du Saint-Sépulcre qui sont là pour protéger la couronne. La couronne a quitté la cathédrale, ce qui est exceptionnel, puisque normalement elle ne doit pas quitter la cathédrale. Elle est au Louvre et elle ne sort pas du Louvre. Je pense que si tout se passe bien, je voudrais que la vénération de la couronne recommence pendant le carré. Mais, vous savez, sortir la couronne du Louvre, c'est quelque chose. Il y a 10 policiers qui sont tout autour, tellement tout le monde a peur qu'on vole la couronne. Donc c'est vrai que c'est pas très facile de sortir la couronne et ça gêne tout le monde. Mais le Vendredi Saint, mon cher monsieur le curé, le Vendredi Saint, elle est sortie, elle était là depuis le Lundi Saint au Louvre, le Mardi Saint au Louvre, et le Vendredi Saint, j'étais à Saint-Sulpice, l'archevêque de Paris avait voulu que la couronne soit là, donc on avait demandé au Louvre si on pouvait sortir la couronne, qu'est-ce que je vois arriver? Deux motards, une voiture blindée noire. Je me suis dit, ça doit être le président qui vient à l'office du Vendredi Saint, ça aurait été bien, ou peut-être madame, la première dame. Voilà, donc j'étais prêt, je me précipite naturellement à aller chercher cette haute personnalité, et que vois-je? Que vois-je? Tout simplement le directeur du Louvre qui portait la couronne dans son écrin. Je me suis dit, Seigneur, le Vendredi Saint, quand tu étais au Golgotha, est-ce que tu avais deux motards? Est-ce que ta voiture était blindée? Voilà, mais Dieu a de l'humour. Voilà, et je pense qu'il a ri de là-haut en disant, bah voilà. Mais ça veut dire que cette couronne, je ne suis pas là pour vous parler de la couronne, mais ça veut dire que la couronne, cette couronne d'épines, elle a aussi sans doute protégé la cathédrale. Vous savez, c'est la plus belle relique avec le Saint-Suaire de Turin. Cette relique, elle est vénérée chez nous tous les premiers vendredis du mois et tous les vendredis de carême. Elle est vénérée par, naturellement, les frères et sœurs orthodoxes, parce que pour eux, c'est la plus belle icône. Mais elle est aussi vénérée par nombre de catholiques, par des petits, des grands, des jeunes, des moins jeunes, des malades. Et donc, cette couronne a un rayonnement. Voilà. Mais je me dis qu'il y avait un signe, vous voyez, la croix lumineuse du fond de la cathédrale, qui est la croix glorieuse, hein, la Vierge qui porte son enfant, et la couronne d'épines. Voilà, c'est une récapitulation de tout le mystère de la rédemption, du salut. Alors, je voudrais parler un peu de Marie, puisque je suis là pour vous parler de Marie. Marie, c'est une créature de Dieu, comme vous et moi. Oh, c'est vrai, c'est une créature un petit peu exceptionnelle par rapport à nous, mais enfin, elle est comme vous, elle est comme moi. Et je crois que c'est très important. Hein. C'est-à-dire que elle est mère du Créateur. C'est pas rien, mère du Créateur. Hein. Et puis, je dirais que Marie, c'est une créature, mais j'allais dire une créature assumée. Assumé par Dieu. Quelle est notre vocation? Notre vocation, c'est d'avoir été créé sans péché, immaculé, pour vivre dans l'amour en présence de Dieu. C'est votre vocation. Enfin, c'est la mienne aussi, hein. Mais c'est notre vocation à tous ici. Nous avons été créés pour être immaculés, être sans péché. Voilà. C'est ça que je veux vous dire. La grâce de l'Immaculée Conception, ça va être ça, c'est de nous rappeler notre propre vocation. Vous êtes là pour ça. La source de votre liberté, c'est cela. On croit toujours, parce que vous avez fait cette expérience quand vous étiez jeune, rappelez-vous, quand vous aviez 18 ans ou 21 ans, ça dépend de votre âge, mais quand on était jeune et qu'à un moment on a atteint l'âge, voilà, de la majorité, on disait « Ouf, enfin je suis libre, je peux faire ce que je veux. » Mais non, c'est pas ça la liberté. On croit que c'est ça, parce que concrètement, je suis libre. Ah non, c'est une expérience qu'on fait quand on est jeune, mais après il faut réfléchir. La source de la liberté, l'essence de la liberté, c'est précisément d'être orienté vers votre vocation. C'est-à-dire vers ce pourquoi vous avez été créé. Or, vous avez été créé pour être saint. Vous avez été créé pour vivre dans l'amour. Vous avez été créé pour vivre en présence de Dieu, Éphésiens. Donc, vous voyez que ce qui est important, c'est de se rappeler cette liberté que saint Augustin appelle libertas, parce que il n'y a pas d'autre mot, à la différence du libre arbitre. Voilà. Le libre arbitre, c'est le libre choix. La libertas, c'est ce que dit le pape François, la liberté intérieure. Voilà. Et c'est cette liberté intérieure, hein, qui fait que nous pouvons répondre tous à notre vocation. Et donc, Marie se réalise précisément dans cette vocation, voilà, dans ce oui, dans cette vocation. Donc c'est la première chose, c'est de dire comment, quand on adhère à la volonté de Dieu, comment une créature s'épanouit. Voilà. Et la question pour chacun d'entre nous, c'est comment nous adhérons, hein, à la volonté de Dieu. Le Seigneur a un projet pour chacun d'entre nous. Voilà. Et donc, plus vous entrez dans ce projet, donc plus vous entrez dans votre vocation fondamentale, plus vous êtes épanoui, plus vous êtes heureux. Alors, Marie, comme créature, a une vocation. Voilà. Elle chemine dans une histoire, dans son histoire humaine. C'est vrai, il n'y a pas de péché, mais je voudrais qu'ensemble, on comprenne pourquoi Marie est immaculée, ou si vous voulez, pourquoi elle est sauvée par avance. Parce qu'elle est sauvée. Voilà une question. Mais ça, c'est une question qui a tourmenté tous les pères de l'Église, notamment mon ami saint Augustin, qui est un bon ami. J'espère que quand j'irai au ciel, je le verrai. Sans doute, parce que j'ai pas mal de gens à voir au ciel, donc, mais je lui poserai quelques questions. Parce qu'il n'a pas toujours été très doué avec le péché originel, mais là, il a bloqué le dogme de l'Immaculée Conception. Pourquoi ? Parce que il s'est dit, le Seigneur vient sauver tout homme sans exception. Et alors déjà, les liturgies d'Orient disaient que Marie était sans péché. Il dit, c'est pas possible. Elle a péché, la pauvre. Elle a péché parce que sinon, s'il y a une personne qui est en dehors du salut, eh bien, on ne peut pas dire que le Christ a sauvé tout homme sans exception. Et donc, il a bloqué. Vous voyez, parfois il y a des gens comme ça qui serrent les verrous. Et donc, voilà, il a fallu du temps pour arriver à débloquer. Même saint Thomas d'Aquin, le grand docteur angélique, a été bloqué par ça. Voilà. Donc, est-ce que Marie a été touché par le péché. Et donc on va voir que le dogme de l'Immaculée Conception va s'appuyer sur le fait que Marie est sauvée. Mais elle est sauvée par avance. Et vous allez voir que pour vous, c'est une histoire merveilleuse. Dès le 7e siècle, on commençait déjà à parler de l'Immaculée Conception. Il y avait d'ailleurs une fête de la naissance de Marie en Orient. En Orient, on aimait bien la Vierge. On l'aime toujours, d'ailleurs. Pourquoi je dis on aimait ? On aime toujours la Vierge, voilà. Et donc, nous, c'est passé au 11e siècle, plus tard. Donc, et donc, on va essayer de comprendre le pourquoi. Donc, il y a des pères qui se sont battus pour dire, mais non, il faut être un peu plus ouvert, pas du tout. Vous ne savez pas ce que c'est, saint Thomas d'Aquin, c'est... Bon, alors, on va essayer de régler le problème. C'est Duns Scot, tiens, un franciscain, le bienheureux Duns Scot, 1270-1300, vous voyez, c'est l'époque de la cathédrale, vous voyez, mais il n'est pas venu à la cathédrale. Mais Duns Scot dit, mais oui, Marie est sauvée, mais elle est plus sauvée que les autres. Et voilà, comment lui... Un coup de génie, ça. Hein. C'est le coup de génie de l'Esprit-Saint. Il a tout desserré. Il reprend l'argument de saint Augustin. Oui, Marie est sauvée. Elle est plus sauvée que les autres parce qu'elle est sauvée par avance. Elle est sauvée par les mérites de son fils. Donc, elle est sauvée par avance. Et donc, naturellement... Là, c'est une révolution. Il accepte, au fond, l'objection augustinienne, mais il la retourne, et donc c'est ainsi que Marie reste une rachetée. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose d'important pour nous. Pourquoi ? Ben parce que ça veut dire que Marie, le salut est plus originel que le péché originel. Eh bien ça, c'est un coup de tonnerre. C'est important. Ça veut dire que la grâce, elle est plus originelle que le péché. Que le salut soit plus originel, eh bien, ça veut dire que quand Dieu... à créer. Ah, ça, je poserai aussi une question à Dieu. Mais là, comme il y a la queue là-haut, donc j'attendrai un peu. Mais je lui poserai quand même la question. Parce que il a créé le monde et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Voilà. Et il les a créés libres. Il nous a créés libres. Mais j'ai quand même envie de demander au bon Dieu, mais pourquoi as-tu créé le monde ? Et pourquoi as-tu créé surtout l'homme ? Tu savais qu'il y aurait tous les pépins possibles. Mais pourquoi ? Je ne sais pas si vous avez une réponse, si vous me dites, parce qu'à ce moment-là, j'attends pas d'aller au ciel si j'ai la réponse. Voilà. Il y a peut-être si quand même une réponse. Si Dieu nous a créés, c'est quand même pour nous faire partager son bonheur, sa vie divine. C'est la seule réponse. Voilà. S'il nous a créés, il ne faut pas que je le regarde du côté de Dieu, parce que je ne peux pas penser ce que pense Dieu. En revanche, je me dis, mais s'il nous a créés, c'est quand même pour nous faire participer de sa divinité. C'est-à-dire, ce que nous avions comme désir dans la Genèse. On voulait être comme Dieu. Rappelez-vous le fruit. On croit que c'est une pomme, mais ce n'est pas du tout une pomme. Ce n'est pas grave. Hein? Qui s'est coincé là, hein? Si tu manges de ce fruit, tu seras comme des dieux. Voilà. C'est le péché des origines. C'est le péché qui demeure encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une forme, pardonnez le mot grossier, du pélagianisme. C'est-à-dire qu'on veut s'en sortir par nos propres forces. On veut être Dieu par nos propres forces. Et Adam, fragile, tout comme Ève, fragile. Enfin, en tout cas, Adam est encore plus fragile, parce qu'il se laisse entraîner par sa femme. Voilà. Et hop, il mange du fruit. Et il se retrouve où ? Dehors. Dehors. Eh oui, c'est le péché qui demeure, le péché d'orgueil. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est de l'ordre de la grâce. On veut précisément naturaliser tout ça. Et on oublie le travail de Dieu. On transforme le surnaturel en naturel. Et aujourd'hui, on a évacué Dieu, et aujourd'hui, on a pris la place de Dieu. Et quand on prend la place de Dieu, eh bien, c'est très clair. L'homme se déshumanise. Il suffit de regarder notre monde, il suffit de voir ce qui se passe. Et donc, il faut absolument, nous, retrouver cet équilibre, c'est-à-dire retrouver la grâce. Donc vous voyez, première chose que je voudrais vous dire, hein, c'est que voilà, le salut est plus originel. Dieu savait qu'en créant l'homme, il pourrait y avoir des pépins. Il avait tout prévu. Et la croix, il l'avait prévu. Parce que de toute éternité, il avait prévu le salut. En nous créant à son image et à sa ressemblance, en voulant nous faire participer à sa divinité, il était évident qu'il avait préparé déjà le mystère du salut. Au cas où, mais ça n'a pas duré longtemps, puisque c'est au paradis, il y a déjà, ça se déglingue au paradis. Voilà. Donc, première chose, c'est que la grâce est plus originelle que le péché. Donc, ça doit nous motiver, même si peut-être que vous faites de la catéchèse et tout, commencez toujours par la grâce, pas par le péché. C'est démoralisant de commencer par le péché, ou plutôt commencer par la grâce. Quand vous faites votre examen de conscience, commencez par dire merci, voilà. Après, il faut voir son péché, on va y revenir, mais il faut d'abord dire merci, voilà. Voilà. Si j'ai pu supporter telle personne, merci Seigneur. Parce que ce n'est pas moi, c'est la grâce. Voilà. Vous savez, je bouge beaucoup là actuellement. Alors, on me dit, oh là là, vous êtes formidable. Je suis formidable de rien du tout. J'ai une cathédrale, elle a cramé. Donc, formidable, vous vous rendez compte? Je ne suis pas très formidable dans cette affaire. Il n'empêche que je sens bien l'action de la grâce. Et donc, vous voyez, d'un point de vue catéchétique, il est important, mais d'un point de vue spirituel, il est important pour chacun d'entre nous de commencer par la grâce. Voilà, le docteur de la grâce, saint Augustin, qui était le docteur de la grâce, il a été aussi le docteur du péché. Je ne peux pas séparer la grâce et le péché, parce que, voilà... N'oubliez pas que nous avons été créés et que Adam et Ève, ils étaient dans la grâce avant le péché, si je puis dire, avant le péché. Voilà. Donc, ce dogme de l'Immaculée, je vais y revenir, mais ce dogme, vous voyez, montre que, voilà, la grâce est plus jeune que le péché. Vivez beaucoup plus de la grâce. Alors, maintenant, essayons de voir rapidement, je vais vous dire, ne pas vous abrutir de date, mais en 1854, c'est Pie IX qui définit le dogme de l'Immaculée. Très bien. Donc, il dit, nous déclarons, prononçons, définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par une grâce est une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel. Voilà. Et puis, 1854. Et voilà qu'en 1858, la Vierge Marie à Lourdes se présente comme l'Immaculée Conception. Comme si la Vierge Marie voulait ratifier ce que le pape avait dit. Et la Vierge Marie a choisi cette brave Bernadette qui naturellement, le 25 mars 1858, elle obéit à son curé qui lui dit va demander qui c'est quand même. Voilà. Donc elle demande à la dame son nom. Et elle ne répond pas « Je suis la Mère de Dieu ». Elle dit non, « Je suis l'Immaculée Conception ». Je suis l'Immaculée Conception. Voilà. Elle ne dit pas « J'ai été conçue sans péché ». Non, elle dit « Je suis ». Elle demeure. Elle est. C'est son être. Je suis l'Immaculée. Elle se définit elle-même d'une certaine façon. Et vous voyez, elle ne se présente pas d'abord comme, je ne sais pas, peut-être que, mais moi c'est peut-être l'orgueil, moi j'aurais dit je suis la Mère de Dieu, quoi. C'est quand même pas rien, hein. Je suis la Reine Mère. Moi je dis toujours comme ça quand, oh allez, je vous, on a un peu de temps, hein. Bon, très bien, je suis la Reine Mère, mais quand vous préposez, vous ne savez pas comment ça se passe, mais je peux vous dire, moi j'ai des visions quand même, pas. Dans mon intelligence, enfin, petite intelligence. Donc, je m'inspire de Saint Bernard, qui était le chantre de la Vierge, il dit toujours, quand vous avez un dossier important, moi, je peux vous dire que moi, j'en ai quelques-uns, hein. Bon. Eh bien, voilà, le mieux, c'est de passer par Marie. Et ensuite, c'est Marie qui se charge de le donner à son fils. Alors comment ça se passe? C'est tout simple. Marie entre dans le bureau de son fils, qui se lève. C'est la reine mère quand même. C'est pas rien. Maman, que voulez-vous? Il se vous voit là où il parle. Maman, que voulez-vous? Oh ben voilà. Il y a un dossier compliqué. Voilà. Mais tu sais, c'est Notre-Dame de Paris. Voilà. Bon, enfin, je sais pas ce qui se passe, mais voilà. C'est le recteur, il m'a donné ce dossier, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que vraiment, c'est important. C'est compliqué, c'est important. Puis c'était ma maison quand même, donc tu peux peut-être faire quelque chose. Et donc, Jésus dit, mais maman, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper tout de suite du dossier. Très bien, le dossier arrive sur le bureau de Jésus. Première étape. Mais après, il faut aller voir Dieu le Père. Parce que c'est quand même Dieu le Père qui décide tout ça. Pas grave. C'est le Fils qui frappe à la porte du Père. Et il dit, oh là là, papa, c'est quand même un grand problème. Il y a un gros dossier, et puis tu comprends, c'est quand même ma mère qui l'a apporté. Puis elle a l'air d'attacher un peu d'importance. Alors bon, ben qu'est-ce que fait Dieu le Père? Il prend le dossier, il le pose. Puis alors après, vous savez, le plus important, c'est la signature. Il signe, eh bien, regardez, aujourd'hui, moi j'ai le général Georgelin, qui est sur le terrain, voilà, et ça va marcher du feu du diable, enfin, de Dieu. Bon, tout ça pour vous dire quand même, si je vous dis ça, c'est que, voilà, je suis, c'est la grâce de la Vierge Marie. Elle ne dit pas, je suis la Mère de Dieu, non. Elle est beaucoup plus forte expression. Je suis l'Immaculée Conception. C'est un présent éternel, le je suis. Je suis, voilà. Et cette formule, je suis, montre aussi d'une manière indirecte la sainteté de Marie. La sainteté de Marie. Et pour elle, ce n'est pas naturellement de l'orgueil. La sainteté, c'est que précisément elle va être proche de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que sans péché, elle est proche des pécheurs. Ce qui nous éloigne parfois de nos frères, ce sont nos péchés. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a été créée dans la grâce et à chaque instant de sa vie coïncide avec, j'allais dire, la propre création par Dieu. Elle répond à cette plénitude de grâce. Voilà. Marie est tout en espérance. Marie est tout en espérance. Ce qui la met au-dessus des anges. Oui. C'est que les anges sont purs, mais eux, ils ne sont point charnels. Voilà. Nous avons un corps. Comme dit l'Écriture, nous sommes charnels, mais nous ne sommes pas toujours purs. Voilà, la différence des anges. En tout cas, j'allais dire, Marie coïncide avec son enfance, avec son origine, avec le jaillissement en elle de la création et de la grâce. Elle a répondu pleinement à sa vocation. Alors, avançons encore un petit peu, l'Immaculée Conception comme expérience existentielle en Marie. Marie, elle est conçue sans péché, tout comme son fils, qui est naturellement sans péché. Ils sont tous deux, l'un par l'autre, eh bien, ils sont en état de lutte victorieuse contre le péché. Voilà. C'est-à-dire que pour nous, c'est important. Ça veut dire que le péché ne fait pas partie de notre structure. Et c'est important pour notre combat spirituel. Moi, j'entends des gens dire « Oh, mon père, bon, je viens me confesser, voilà, j'ai fait tel péché, mais enfin, que vous voulez, moi, je suis un être humain, voilà. » Mais non, parce que là, vous ne vous battez plus. Il faut dire « Je suis capable, même si on tombe par terre, je suis capable de vivre sans péché. Marie, créature comme vous et moi, certes immaculée, mais Marie nous montre qu'on peut être victorieux. Hein ? Voilà. On peut être victorieux dans notre combat spirituel. Voilà. Donc vraiment, je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de nous le redire. On est capable. La vraie question, moi je le dis, c'est pas celle du péché quand on parle de l'Immaculée Conception. La vraie question, c'est la question du salut. Du salut, voilà. Le péché ne devrait pas nous faire douter de la miséricorde divine. Même celui qui est au fond du trou, je peux vous assurer que le Seigneur ira le chercher. Si toutefois, on tend la main, naturellement, si on ne tend pas la main, on reste dans le trou. Non. Mais je crois que c'est la seule question, c'est la question du salut. Ce n'est pas la question du péché. C'est-à-dire, c'est la victoire de Dieu sur le péché. Voilà la vraie question. Fêter l'Immaculée Conception, c'est cette question. Je peux être sauvé. Le péché, il est grave, hein, mais le péché, il est humain. Il n'est pas divin. Le péché est grave. Mais la miséricorde, elle, eh bien, elle éclate face au péché. La miséricorde est plus forte que le péché. C'est la puissance victorieuse du Dieu d'amour. Et c'est pour ça que Marie, elle est plus proche de chacun d'entre nous. Voilà. Souvent, les théologiens se posent toujours des questions étonnantes. Est-ce que Marie s'est sentie à part des autres? Parce qu'en disant, je suis l'Immaculée, je suis donc différente, je suis une super sainte. Mais non. Elle ne savait pas qu'il y avait le dogme. Maintenant, elle le sait, puisqu'elle est là-haut, puisqu'elle le dit à Lourdes. Mais au début, elle ne savait pas ce qu'était l'Immaculée Conception. Mais ce dont elle est sûre, c'est que, voilà, elle est, justement, elle vit dans l'ignorance d'elle-même pour être beaucoup plus proche de chacun d'entre nous. Ils ne sont pas préoccupés, vous savez, les saints, ils ne sont pas préoccupés par leur propre justice, non. Elle n'est qu'un élan vers Dieu. Toute la vie de la Vierge est un élan vers Dieu. Et je pense qu'elle a dû souffrir de voir qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de ses enfants, qui contredisent vraiment ce mouvement de cet élan. Elle pleure quand elle voit les hommes se disputer, s'éloigner de son fils. Elle pleure. Notre Marie pleure. Voilà, elle a entendu, elle a attendu, elle, le Sauveur. Elle a attendu, rappelez-vous, le Magnificat. Mais voilà, nous ne sommes pas solidaires de l'humanité pécheresse. Non. On essaye de se préoccuper déjà de notre cas, vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais voilà. Non. Marie, elle vit pour le monde, proche de ce monde. Elle aime ce monde. Elle aime chacun d'entre nous. C'est ce que j'ai vu, vous savez, plus d'une fois à Notre-Dame. Quand je voyais des gens, je me rappelle d'un jeune, il est venu me voir, je faisais une permanence de confession, mais qui était une permanence de dialogue, ce jeune, qui doit avoir 22 ans, 23 ans, je ne sais pas. Et il me dit, voilà, mon père, je ne sais pas pourquoi je suis là. Ah ben, je vais moi non plus. Enfin, vous êtes là. Mais je n'ai pas la foi. Bon, tu n'as pas la foi, mais tu te trouves devant un curé. C'est extraordinaire. Et puis après, ben... voilà, on a ouvert un peu son cœur. Et puis, je lui ai dit, mais comment tu te retrouves là? Et il me dit, mais j'étais sur le parvis, il y avait pourtant la queue. Eh bien, j'ai comme senti quelqu'un qui m'appelait. Voilà, quelqu'un l'appelait. Et ce quelqu'un, c'était quelqu'une. C'était Marie, qui l'a pris par le collet. Et hop, allez, viens, tu vas aller voir mon fils. Voilà. Et ce jeune, qui était un Allemand, ce jeune est revenu 2 ans après. Il m'avait envoyé un petit signe parce qu'il s'est fiancé. Voilà. Et il voulait célébrer ses fiançailles à Notre-Dame, qui était le lieu de sa conversion. La délicatesse de Marie. Je le raconte encore parce que ça m'a bouleversé. Un jour, je reçois un groupe d'étudiants hollandais. Voilà. Et ces Hollandais voulaient prier près de la Vierge du Pilier. Très bien. Et parce que leur professeur de français s'était suicidé. Et donc, ils voulaient prier pour ce professeur. Et donc, ils installent le portrait que je mets. C'est moi qui anime la prière. Ils parlaient très bien français, d'ailleurs. Heureusement. Et puis, à la fin, l'Esprit Saint, je leur dis, mais peut-être que vous avez une prière à dire vous aussi, ou voilà. Alors il y en a une qui sort un papier, et puis elle me dit, ben, on a retrouvé ce papier dans les affaires de notre professeur, et donc on voudrait dire cette prière. Il est midi, prière de Claudel, prière Maria. Alors je lui ai dit, vous savez qui c'est? Personne ne savait. Mais j'ai dit, c'est Paul Claudel. Vous savez qui est Paul Claudel? Personne. Mais remarquez, on aurait demandé à des jeunes Français, je pense qu'ils ne sauraient pas non plus. Non. Et alors je leur ai dit, mais Claudel, vous êtes exactement à l'endroit où Claudel s'est converti. Et vous me dites cette prière de Claudel sur la Vierge Marie. Il est midi. Alors je me dis, voyez, ça c'est un petit clin d'œil de la Vierge Marie. Un petit clin d'œil aussi de votre prof, voilà, qui était en communion avec vous pendant cette prière. Il n'y a que la Vierge pour faire des coups comme ça. Ah, tout le monde pleurait, c'était parfait. Voilà. Puis après, ils ont dû acheter quelques médailles, j'espère. Enfin bref, mais c'était quelque chose. Mais je me dis, mais voilà, c'est un coup. Ça, c'est la Vierge. Et Marie, la Vierge du Pilier, elle regarde de côté, elle regarde de tendresse. Et c'est vrai que quand les gens passent, 35 000 par jour, 35 000 personnes passent à côté d'elle. Certains s'arrêtent, la regardent, voilà. D'autres passent parce qu'ils ne savent pas très bien qui c'est, ne comprennent pas. Sauf quand pendant le Magnificat, on encense la Vierge, alors là, ils se disent, ça doit être quelqu'un de bien. Voilà. Mais c'est vrai que de temps en temps, elle en prend un. Allez, va voir mon fils. Parce que c'est toujours... Elle ne nous garde pas pour nous, hein. Moi, j'aimerais bien rester avec la Vierge Marie, hein, mais elle me dit aussi, hey, toi aussi, allez, va voir mon fils, ça va te faire du bien.
Ça veut dire, va te confesser, c'est ça que ça veut dire.
Ben oui, mais je crois que c'est important. Donc, ça veut dire quand même que, voilà, Marie se sait sauver. Mon âme exulte en Dieu, mon sauveur. Elle sait, peut-être pas comme je vous le dis ce soir, mais elle sait que c'est par pure grâce. Hein, voilà. Mais la petite Thérèse, j'ai vu qu'il y avait la statue de la petite Thérèse par là. J'ai pas, ah oui, voilà, la petite Thérèse, elle est là. La petite Thérèse aussi, elle n'avait pas de péché. Enfin, son confesseur dit qu'elle n'avait pas fait de péché mortel, de grave péché. Mais, et c'est sans doute pour cela aussi que, voilà, elle n'avait jamais perdu cette grâce sanctifiante. Elle ne l'a jamais perdue. Hein. Et donc, voilà, c'est une des saintes qui a le plus magnifié l'amour miséricordieux. Étonnant. Voilà, comme elle dit, Dieu m'a remis à l'avance les péchés que j'aurais pu commettre. La petite Thérèse, c'est pour ça qu'elle est docteur. Moi, je dis, dans notre monde, où parfois on a parfois trop parlé du péché, et on ne parlait pas assez de la grâce, je pense qu'elle peut être aussi, elle, docteur de la grâce. C'est par une grâce prévenante de Dieu que j'ai pu être gardé du péché mortel. Et je me dis, c'est quand on voit qu'on aurait pu devenir, je ne sais pas quoi, X ou Y, c'est par une grâce prévenante que nous sommes aidés sur notre chemin. Quelle est la signification pour nous, et après je termine. D'abord, la conception immaculée est une annonce. C'est une annonce. C'est la victoire de la miséricorde. Voilà. Et donc, en avant, on se confesse, hein, normalement, pour préparer Noël, mais sachez que fêter l'Immaculée Conception, c'est la victoire de la miséricorde. Si Marie a vécu, j'allais dire son immaculée conception, enfin a vécu sa vie comme cela, c'est au service de notre propre libération. Elle a dit oui, fiat, fiat. Sa pureté annonce notre purification, voilà, notre communion finale dans la sainteté de Dieu. C'est pour ça qu'il faut regarder Marie. Parce que l'Immaculée Conception va être liée précisément à l'Assomption. Pour nous, qui malheureusement sommes marqués par le péché, la mort va être une rupture, hein, une séparation. Même si, j'espère, on va terminer au ciel. Mais en Marie, il n'y a pas ça, puisqu'il n'y a pas de péché. Elle ne peut pas connaître la conséquence du péché originel, puisqu'elle n'a pas de péché originel. Donc elle est passée de la vie à la vie, sans rupture. Donc, mais voyez que c'est pour nous important, ça veut dire que, voilà, elle nous montre la sainteté, le chemin qui nous conduit à la sainteté de Dieu. C'est la victoire finale de la miséricorde. Et quand vous arriverez au ciel, moi je peux vous l'assurer, vous verrez la Vierge Marie, car il y a deux personnes en haut qui ont un corps. Marie et le Christ. Donc, vous ne pouvez pas être, vous serez pas affolé. Les autres n'ont pas de corps. Voilà. Mais quand vous arrivez, si vous voyez une belle dame, vous pouvez dire, je suis bien placé. Ah ben oui, mais comme dit le pape, ben vous ne connaissez pas cette histoire qui est vraie, le pape François, qui bouleverse un peu tout, mais le pape François a raconté ça à des religieuses, ça va être important les religieuses. Il dit, mes sœurs, voilà, de temps en temps, Saint-Pierre est fatigué. Et quand il est fatigué, il est couché. Et quand il est couché, la porte est fermée. Bah oui, il ne va pas laisser la porte ouverte, vous vous rendez compte. Mais ajoute le pape, ce que ne sait pas Saint-Pierre, mais ce que sait naturellement le pape François, c'est qu'il y a une belle dame. Une belle dame qui est à la porte. Et elle, dès qu'elle voit quelqu'un arriver, hop, c'est automatique d'ailleurs, il paraît qu'on appuie sur un bouton, les portes s'ouvrent, elle fait rentrer tout le monde. Elle fait rentrer tout le monde. La belle dame. Puis le pape s'arrête et dit aux sœurs, bon, naturellement, c'est pas vrai. Ce que je vous raconte, c'est pas vrai. Parce que Saint-Pierre, il est jamais fatigué. Donc, mais si je vous dis ça, ce dont je suis sûr, c'est qu'à la porte, il y a quand même aussi la Vierge Marie. Et donc, vous avez intérêt à prier un peu plus la Vierge et un peu plus votre chapelet. Les sœurs, elles étaient là, elles ont sorti leur chapelet immédiatement. Hop, toutes les sœurs avaient leur chapelet. Histoire vraie, c'était un 15 août. Non, mais je ne vous raconte pas des histoires. N'allez pas croire. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous voyez, c'est l'annonce. L'Immaculée Conception, c'est l'annonce libératrice des temps nouveaux. Voilà. Marie nous guide sur ce chemin de la sainteté. Voilà. Ensuite, je dirais que l'Immaculée Conception, donc un, annonce de la victoire, deux, un encouragement pour notre combat quotidien. Voilà. C'est vrai que le Christ nous invite à la conversion. Et il faut enseigner le combat spirituel. C'est notre marche essentielle à la suite du Christ. Et donc, n'oubliez jamais que dans votre combat spirituel, le Christ est avec vous. Il se bat avec vous. Mais naturellement, n'allez pas jouer avec le feu. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Allez jouer plutôt avec Jésus ou avec la Vierge Marie. C'est plus facile dans le combat spirituel. Voilà. Donc, voyez, je vous encourage, enfin c'est Marie, pas moi, mais je vous encourage aussi, moi, mais nous encourage à poursuivre le combat. Voilà, le combat. Marie intercède pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Jusqu'au dernier moment, Marie sera là pour vous et avec vous dans le combat. Donc, deuxièmement, l'Immaculée Conception est un encouragement. Troisièmement, l'Immaculée Conception est un enseignement précieux. À la fois, c'est une invitation à avoir un regard sans complaisance sur le péché. N'allez pas croire que je vous dis, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est sauvé. Ah non, non, ça n'a aucun intérêt. J'aurais mieux fait, vous n'auriez pas, il ne faut pas vous déplacer pour ça. Non, je pense qu'il faut avoir un regard sans complaisance, parce qu'il faut regarder aussi notre péché. Comme disait le philosophe Pascal, si tu connaissais ton péché, tu perdrais cœur. Eh bien, moi, je pense qu'il faut se rendre compte de la gravité de notre péché au pied de la croix. Voilà. Mais, je dis qu'il faut aussi en même temps, un regard paisible. Sinon, vous allez tomber dans des fausses culpabilités, vous ne pourrez pas vous en sortir. À la fois, il faut avoir un regard sur son péché, mais un regard paisible. Pourquoi ? Parce que c'est la victoire de la croix. C'est ça qu'il faut proclamer. C'est ici, l'Immaculée Conception est une précieuse éducatrice. Quelle que soit la gravité de notre péché, celui-ci est humain, alors que la miséricorde, elle est infinie et divine. Donc voyez, si vous vous mettez dans la lumière de la croix, eh bien vous pouvez être sûr que vous ne serez pas écrasé par votre péché, parce que vous savez que la croix, elle est victoire, victoire sur le péché. Eh bien, Marie, dans sa sainteté rayonnante, avant même qu'elle ne se soit manifestée par son Assomption, est l'image définitive de cette victoire. Voilà. Cette victoire. Enfin, et dernier point, je termine là-dessus. Nous sommes incapables, nous, parce que nous sommes limités, parce que nous sommes, voilà, des créatures blessées, nous sommes incapables de donner à Dieu une réponse qui soit digne de lui. Eh bien, dans le monde, il y a une créature, comme vous et moi, une créature qui a été capable de dire oui, le oui parfait, le fiat de la Vierge Marie. Et là, c'est une grande victoire. Parce que quand vous dites oui au Seigneur, surtout, n'oubliez pas de dire, je sais Marie, que mon petit oui, il est dans ton grand oui. Nos petits oui. Ça, c'est une affaire de chaque jour. Je disais toujours aux séminaristes, voilà, au moment où vous serez devant l'évêque pour l'ordination et que vous serez prostré, voilà. Demandez vraiment à la Vierge de saisir votre pauvre oui pour qu'il soit justement un oui transfiguré. Et demandez ensuite la grâce de la fidélité, voilà. Donc c'est quelque chose, quand à la fin de la messe, avant la communion, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Quand je dis ça, je pense souvent au oui de Marie. La foi de l'Église catholique, eh bien, c'est dans le oui de la Vierge Marie. Voilà, je crois que c'est important de demander à Dieu de nous regarder dans notre communion avec l'Église et dans notre communion avec Marie. Amen.
Ben merci beaucoup, Père.
Mais voilà.
Alors,
il y a peut-être une question pendant que le Seigneur va apparaître. Il n'y a peut-être pas... Mais si vous avez une question, posez une question. Oui.
Il y a des éclaircissements sur les causes de l'incendie.
Ah, ben alors là... Non, je ne suis pas Sherlock Holmes. Et malheureusement, je crois qu'on ne le saura sans doute jamais. Mais vous savez, ça fait partie de ces choses. Il n'y a pas eu... Ce n'était pas un acte terroriste. Ce n'est pas un acte malveillant. Voilà, maintenant, vous savez, parfois, je ne peux pas trop vous répondre parce que, sachez que la cathédrale appartient à l'État. Comme tout établissement de l'État, l'État n'assure pas le bâtiment. Et la sécurité incendie dépend uniquement de l'État. Voilà. L'Église a fait la terre, l'a fait la terre, lui. J'avais quand même des spécialistes qui pourraient, quand on disait la tête en incendie, donc ils faisaient des levées de doute, ce qu'on appelle les levées de doute. Mais ce sont des gens de l'État qui assurent la sécurité de l'État. Donc, ça reste une affaire d'État. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais j'espère un jour savoir pour écrire un livre. Oui.
Mais au niveau du salut, de la grâce, j'ai bien entendu, autant dire que Marie, elle est co-rédemptrice.
Ah, bonne question. Est-ce que Marie est co-rédemptrice? Non. Voilà. Non. Pourquoi? Parce que Jean-Paul II, elle est médiatrice de toute grâce. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle nous aide à collation. Le Christ est l'unique rédempteur. Donc c'est, ça serait un peu ambigu. Alors il faut l'expliquer. Vous pouvez dire que Marie est co-rédemptrice en ce sens qu'elle a vu au monde le Sauveur, qu'elle a donc participé d'une manière extraordinaire au salut. Voilà, sans doute. Et le titre de co-rédemptrice est un petit peu ennuyé en théologie catholique. Thank you.
n'a pas, ne l'a pas promulgué. Pourtant, Jean-Paul II était un grand record de pape François. À la page 43, là, tu vois, c'est pas très bien. Tu aurais pu corriger. Donc, moi, j'arrive à au calmer.